Quoi de mieux pour nous amener à la chronique, prochaine chronique? C'est le retour, en fait, de la chronique anticapitaliste de la claque, l'abécédaire anticapitaliste qu'on ouvre cette semaine à la lettre P comme dans Piège à con, pour ne pas dire E comme élection. Pour en parler, j'ai au bout du fil Marie-Ève de la claque. Bonjour. Alors, ça me fait plaisir de vous retrouver pour cet abécédaire anticapitaliste. Je le disais, le thème choisi, P comme piège à con, une façon de parler d'élection. C'est évidemment pas étranger au fait qu'il reste à peine quelques jours à la campagne électorale fédérale qui culmine ces jours-ci, comme toutes les campagnes électorales, par des injonctions bien pensantes à faire notre devoir de citoyen, à aller voter le 19 octobre. La CLAQ lance un pavé dans la mare avec son abécédaire cette semaine. Où est-ce que vous vous en allez avec ça? P comme piège à con.
Ben, en fait, comme tu l'as si bien dit, ça fait 75 jours qu'on se fait bombarder de messages publicitaires insipides, de promesses vides, d'insultes à l'intelligence, quand ce n'est pas de purs mensonges. Et puis, bon, tu disais toi-même qu'on se fait appeler là, tout le temps que c'est important d'aller voter, que c'est notre devoir, mais il faut dire que depuis aussi longtemps que la démocratie représentative existe, il y a eu des campagnes d'abstention. Abstention qu'on entend là par refuser d'aller voter ou d'annulation de vote, c'est-à-dire le vote blanc, c'est-à-dire qu'on se déplace on se déplace au bureau de vote, mais on indique notre insatisfaction en votant blanc. Donc, pourquoi cette remise en question des élections et du fait d'aller voter? En fait, c'est qu'il y a une remise en question de la légitimité du système. Pour les abstentionnistes, par exemple, c'est vraiment un boycott politique. Par exemple, pour les anarchistes, c'est un refus de participer à toute cette mascarade qui, en fait, sous découvert de démocratie, sert en fait seulement à légitimer le prochain chef qui décidera de la gestion d'un État qu'on refuse tout autant en tant qu'anarchiste. Il s'agit donc d'une non-coopération complète. Un des avantages qu'on peut y voir, c'est que en cas de fort niveau d'abstention, mais là, c'est toute la légitimité des décisions ou des résultats des élections qui se trouvent être fragilisées, parce qu'il faut savoir que les abstentions, en fait, sont prises en compte dans les résultats électoraux, contrairement d'ailleurs au vote blanc ou au vote nul, qui sont dits des votes non exprimés et ne sont donc pas comptés dans les chiffres qui mesurent l'abstention. Puis contrairement à l'abstention, le vote blanc, lui, ne remet pas en cause le processus électoral. Parce que en se déplaçant pour aller voter, on indique simplement, on s'indigne simplement de la mauvaise qualité de l'offre politique, entre guillemets, c'est-à-dire qu'aucun candidat ou aucune candidate ne nous satisfait. Donc le problème ici est donc pas au niveau du système, mais simplement au niveau de la qualité des candidats.
Donc, première raison de refuser de participer à ça, pour ne pas légitimer un système qui ne nous représente pas, dans lequel on ne se reconnaît pas, mais aussi un système dans lequel on délègue notre pouvoir, en fait, à des gens qui, une fois élus, auront le droit de faire à peu près ce qu'ils veulent.
Oui, c'est ça. Puis même, j'irais plus loin. C'est pas juste le déléguer, mais c'est vraiment déléguer notre pouvoir, mais c'est vraiment d'abdiquer son pouvoir parce que, pour les abstentionnistes, la démocratie représentative ne donne aucun réel pouvoir aux individus. Au contraire, le pouvoir décisionnel va reposer entre les mains des intermédiaires politiques, si on veut, c'est-à-dire, bon, les simples députés ou les ministres qui ont été élus. Mais même là, même si on remet entre les mains d'élus le pouvoir décisionnel, ce pouvoir-là reste somme toute assez limité. Par exemple, on sait qu'il y a plusieurs forces là en présence dans l'arène politique en général. Les lobbies, que ce soit les compagnies privées, l'argent ou les agences de notation, etc. Donc, il n'y a absolument rien qui garantit que le gouvernement mettra en place les mesures pour lesquelles il a été élu. Une fois au pouvoir, il est à peu près libre de faire ce qu'il veut jusqu'aux prochaines élections, puisque, en plus, les élus ne sont pas révocables.
Et donc, les élections, finalement, ça nous permet essentiellement de changer le gouvernement. Est-ce que ça change vraiment quelque chose? C'est la question qu'on peut se poser.
Ben c'est ce qu'on se fait dire. En tout cas, on se dit que c'est vraiment par la voie électorale que passe le changement. Permettez-nous d'en douter. Évidemment, bon, les partis politiques ont une ligne puis un programme politique et on se dit que les gens vont voter en fonction de ça. Mais on sait bien souvent que les gens, en fait, votent pour une personne sans vraiment connaître le programme politique auquel elle appartient. En plus, on est souvent réduit à voter contre un parti, c'est-à-dire, là, on parle du vote stratégique, c'est-à-dire qu'on vote pas tant pour des idées qu'on veut défendre que contre celles qu'on ne veut pas. Par exemple, dans la présente campagne électorale, on va voter pour que les conservateurs ne rentrent pas. Donc, on se dit, mais d'abord, votons pour les libéraux pour être sûr que les conservateurs ne rentrent pas, même si on n'est pas vraiment d'accord avec le programme des libéraux. Donc, non seulement ça ne change pas grand-chose, mais en plus, c'est que c'est pas un véritable choix. C'est juste la logique du moins pire. Puis, à long terme, ça peut juste... Tout ce que cette logique-là peut faire, c'est nourrir le cynisme face aux politiques, à la chose politique, là, au fait de faire de la politique au sens noble du terme, si on veut.
Et donc, ça postule aussi un certain rapport du citoyen à la politique, à la chose politique. Or, les élections, c'est un moment très restreint dans le temps. La citoyenneté, au sens civique du terme, c'est beaucoup plus large que ça, évidemment.
Évidemment, ça se résume pas à la... La citoyenneté ne se résume pas à un vote aux 4 ans, qui est pendant, puis bon, après ça, pendant une campagne électorale normale de 37 jours. En plus, il y a quelque chose d'un peu, comment dire, hypocrite et réducteur à nous dire qu'il faut que le vote, c'est d'aller voter, c'est notre devoir de citoyen. Là, tout d'un coup, l'élite nous appelle citoyens ou citoyennes, alors que le discours ambiant, politique, général, qu'on entend, nous réduit souvent au rôle de contribuable, de consommateur ou même de client, là, quand on parle de services publics. C'est que là, tout d'un coup, là, on fait l'appel aux valeurs citoyennes alors que, en général, les élites s'en foutent. Puis ici, j'insisterai un peu sur le mot citoyen parce que c'est évidemment, les élections, c'est aussi un processus qui exclut bien des gens. Entre autres, le terme citoyen, évidemment, ça exclut les résidents, résidentes permanentes, ça exclut les personnes migrantes en attente de statut, mais aussi, au-delà de ça, plusieurs personnes qui sont marginalisées dans la société, par exemple, comme celles qui sont en situation d'itinérance ou les membres des Premières Nations qui sont parqués dans des réserves, les personnes qui ont des problèmes d'analphabétisme, les personnes âgées ou autres personnes qui ont des limites, là, des difficultés à se déplacer. Donc, c'est pas un processus qui est inclusif, au contraire. Bon, là, évidemment, on fait, quand on dit « Ah non, moi, je veux pas aller voter, je suis contre le vote, je crois pas à ce système-là », un argument qu'on entend souvent, c'est de dire « ben oui, mais les femmes ont lutté pour leur droit de vote, les Noirs aussi, il y a des gens qui sont morts pour ça ». Évidemment que ça a été des luttes importantes pour le droit de vote du mouvement des femmes et du mouvement pour les droits civiques, mais j'aimerais ça quand même qu'on fasse, il faudrait quand même faire une nuance, c'est-à-dire que cette lutte, se poser la question si cette lutte-là était vraiment pour le droit de vote comme tel ou si c'était pas davantage une lutte pour l'égalité et la reconnaissance dont le droit de vote était une des composantes, mais que ultimement ces luttes-là étaient une question donc d'égalité et de reconnaissance et non pas un moyen de légitimer le système en place, si vous comprenez ce que je veux dire.
Absolument. Donc une lutte qui était davantage une lutte politique au sens propre qu'une lutte pour accéder au droit de participer à un processus politique très particulier qui est celui des élections, qui est un processus qui est d'ailleurs très complexe, qui a beaucoup d'implications légales et financières, ce qui est une autre des raisons pour lesquelles les abstentionnistes prônent l'abstention lors de périodes électorales.
Oui, une autre raison, c'est que l'accès à cette joute électorale-là est très limité et réservé à une élite. Par exemple, si on regarde les dépenses des partis, j'ai trouvé les derniers chiffres que j'ai pu trouver, c'est date de 2006, mais bon, c'est pas, il doit pas avoir une très très grande différence là actuellement. Pour ce qui est, mettons, des deux principaux partis, le Parti conservateur et le Parti libéral, les dépenses électorales étaient de tournaient autour là du 18 millions de dollars pour le NPD, autour du 13 000, pour le Bloc autour de 5
millions.
000. Donc, c'est des millions, là, je veux dire, ça veut dire que c'est pas n'importe qui peut avoir accès à cette joute électorale-là. Puis, aussi, comme coût de société, c'est-à-dire comme coût de... c'est que, si on regarde la campagne électorale actuelle, Élections Canada évalue le coût d'une campagne électorale normale, là, qui dure 37 jours, à 375 millions de dollars. Puis là, ben là, évidemment, on sait qu'on a prolongé la campagne électorale à 78 jours. Ça fait que les estimations tournent autour là, d'un coût additionnel de 125 millions. Ça veut dire que pour un total de 1,5 milliard à peu près, là, tu sais, pour une campagne électorale, là, je veux dire.
Qui va peut-être fait... nous amener à élire un gouvernement minoritaire qui va être défait dans les mois, dans quelques années. Tout ça, ça va être à recommencer. Donc, encore une autre raison pourquoi s'opposer à ce discours ambiant qui nous invite à prendre les élections très au sérieux. Donc, les élections, est-ce que ça change vraiment quelque chose finalement?
Ben moi, je me fais la porte-parole des non-officiels, des abstentionnistes, si on veut, mais qui croient que la meilleure façon de changer les choses, en fait, c'est de s'impliquer au quotidien dans son milieu où le pouvoir décisionnel est horizontal. Ça a l'avantage de démontrer aussi que d'autres formes d'organisation sont possibles, souhaitables et qu'elles fonctionnent. Et ne pas participer aux élections électorales, au cirque électoral, pardon, lance un message clair là, de refus du système actuel et un message également qui dit que la politique ne se résume pas à un vote aux 4 ans, que c'est au quotidien qu'elle se vit, la politique.
Et d'ailleurs, Emma Goldman disait si les élections changeaient quelque chose, elles seraient illégales depuis longtemps. Il y a beaucoup d'autres personnes qui ont proposé des réflexions dans ce sens-là. Est-ce que il y en a d'autres que vous voulez partager avec nous avant qu'on se quitte?
Oui, j'en ai une que j'aime bien de Herbert Marcuse qui dit « Le fait de pouvoir élire librement des maîtres ne supprime ni les maîtres ni les esclaves. » Et on a aussi Louise Michel qui disait « C'est le pouvoir qui est maudit. » Et c'est pour cela que je suis anarchiste. Mais ma préférée, en fait, c'est celle de Charlie Hebdo qui un jour a dit « Votez con, vous n'avez pas le choix ».
Alors, c'était l'abécédaire anticapitaliste de la claque ce mois-ci, P comme piège à con. Merci beaucoup, Marie-Ève, d'avoir été avec nous pour partager ces réflexions.
Au plaisir.
Au plaisir. Au revoir.
Au revoir.